RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Bon, vous ne méritez pas, je vous donne pas la météo. Non, démerdez-vous. Bon. Hein? Je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais même pas à quelle heure va passer mon émission. Donc je ne peux pas vous dire, normalement je ne devrais pas vous dire bonjour non plus. Et puis la météo aussi, par exemple, mon émission passe le soir, juste avant qu'il fasse nuit. Je ne vais pas vous dire bonjour, je ne vais pas vous donner la météo de la nuit quand même. Hein? On s'en fout de la nuit, on dort. Enfin, sauf si ça fait beaucoup de bruit, hein. Par exemple, c'est pas un orage. Hein. Ou d'un seul coup, des grêlons qui vous tombent sur la toiture et qui vous cassent les tuiles. Et après, les grêlons, ils vous tombent sur le ventre, dans votre lit. Oh, quel désastre. Non, mais on n'ira pas jusque-là, je vous le promets, on n'ira pas jusque-là. Bon, allez, alors, je vous avais dit, j'ai un livre du même auteur, c'est-à-dire les Folio Junior. La mer en poésie et l'arbre en poésie. Et je vais vous lire au moins un poème de chaque. Hein. Voilà, histoire de se mettre en train. Alors, on va commencer par la mer. Alors, la mer, en plus, vous vous rendez compte ? Paul et Loire. Oh, oh, oh. Incroyable. Et vous savez que Paul et Loire, il s'est fait piquer sa gondesse par Salvador Dali. Oui, la fameuse gala. Oui, oui. Ils sont restés copains. C'est incroyable, ça. J'ai vu des photos où vous avez Salvador Dali avec Paul et Loire en train de boire un coup et se marrer tous les deux. Bon, remarquez, Gala n'était pas là. Peut-être que c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Peut-être que si Gala avait été entre les deux, elle aurait dit mon cœur balance encore. Hein? Est-ce que je vais vers Paul et Loire entre un poète, écrivain, et un artiste peintre un peu foufou? Parce que Dali, je ne sais pas si vous connaissez, mais oh, c'est génial ce qu'il fait ça. C'est incroyable. Alors, il y en a un qui, je ne sais pas ce qui pouvait lui ressembler, parce que j'avais Jérôme Bosch, mais au temps du Moyen-Âge, il travaillait comme Dali. Et après, j'ai compris que ce n'était pas Jérôme Bosch qui travaillait comme Dali, c'est Dali qui travaillait comme Jérôme Bosch, en fait. Mais avec des méthodes différentes, un autre point de vue dans la tête, plus ou moins de folie, mais enfin, bon, ils étaient fous tous les deux pour peindre ce qu'ils ont peint. C'est un monde imaginaire, c'est un peu comme moi, comme je fais mes tableaux numériques, c'est un autre monde. Un monde qui n'existe pas dans la réalité. Par exemple, moi, j'ai mon opérateur en face de moi. Bon, il me ressemble. Mais dans un autre monde, il ne pourrait pas me ressembler. Vous voyez ? C'est ça que je voulais dire. Hein ? Il serait peut-être chauve, hein, avec trois poils sous le menton, avec une petite barrette pour les tenir tous les trois, des lunettes avec des papillotes, vous voyez, hein, une cigarette dans les trous de nez, hein, ou dans l'oreille. Ça se voit mieux dans l'oreille, puis c'est plus facile pour respirer. Hein. Voilà, vous voyez ? Il y aurait un t-shirt avec Brigitte Bardot dessus. Brigitte Bardot, mais toute nue, pas habillée, aucun intérêt. Bon, vous voyez ? Bon, allez, arrêtons les conneries. Allez. Alors, Paul-Éloire, il appelle ça Marine. Et il a offert ce poème à Alberto Giacometti. Alors, Giacometti, c'est un sculpteur, vous voyez ? Il reste dans avec les artistes, voilà, hein. Je me suis pris à caresser la mer qui hume les orages. Ma bouche aura des flots buveuses de paroles, prenant l'or du soleil sur un chemin d'or chaud, comme foule pressée, entraînée, exaltée. Les vagues, les étés, dans cet arbre ajouré. Mais pourquoi il parle d'arbre, puisque c'est l'autre bouquin, l'arbre. Oh, ils sont emmerdants de mélanger comme ça les deux thèmes, les arbres et la mer. Bon. Fais gaffe, pas les Loire, je vais le dire à Dali, moi. Hein. Bon. Ou à Gala, même. Tiens, en parlant de ça, j'ai un poème sur Gala. Hein. Je vous le lirai un jour, il faut que j'aille leur tout, je ne sais pas où il est. Peut-être que j'aurai lu dans un de mes bouquins que j'ai amené. Enfin, je vous le lirai, hein, mais plus tard. Et alors, dans cet arbre accessible aux couleurs et aux hommes, leur azur, leur ciel, pur le mélange des eaux, leur dentelle et la flamme du matin désert. Deux vallées, trois sommets s'unissent, font la chaîne. L'océan qui me mène à le destin du ciel et la vague initiale amenuise un nuage. Miroir, ouvert sur les oiseaux uniques qui tremble d'aise à chaque goutte d'eau, l'herbe grande d'océan sur les sables assoupis. Bon, il mélange un peu tout, là, hein, l'herbe, le sable, bon, le sable au bord de la mer, je veux dire, bon. La fleur de figue marine, les astres vierges en fête, midi blanc dans des fonds noirs et dans un filet d'hiver. L'injure jetée au vent, à la vague du tombeau, tout au plus un navire, tout au plus un navire à demi englouti, comme un poignard dans sa blessure connaît encore l'ombre. Tout au plus un radeau, la mort simple, et la mer est plus vide qu'un ivrogne pauvre. Ah ouais, mais un ivrogne qui est pauvre, je peux vous dire que ça le fait chier hein, de ne pas pouvoir picoler parce qu'il n'a pas d'argent. Hein. C'est normal, bon, vous voyez, c'est comme la mer qui est vide, en fait. Il est vide, lui, hein, et il n'est pas livide. Hein. Bon, allez, continuons. Dernière vague, ivresse de vieillard. Ça, je vous l'avais dit, que les vieillards, ils boivent. Hein. Ouais. Des solubles coteaux et la lune risible n'ont trouvé dans mon cœur qu'un espace restreint, et la mer dans le ciel n'est qu'une goutte d'eau. Hein ? Je ne parle pas de goutte d'eau, là. Hein. Bon. Parce que ceux qui ont le goutte d'eau, c'est pas terrible. Hein. Je préfère avoir le goutte de vin, moi. Hein. Le goût de gin tonic. Oh, ça vous laisse un de ces goûts dans la bouche. C'est comme si on vous racontait un poème, tellement c'est bon. Oh, c'est bon. Alors des fois, ben, moi, je prends jusqu'à 3 poèmes. Voilà. Bon. J'espère que vous avez compris. Mais ne dites surtout pas à vos enfants, hein, parce qu'ils sont encore là aujourd'hui. Hein. Et oui, c'est encore la récréation, hein. La grande récréation de 15 jours, là. Hein. Ils appellent ça la récréation de Pâques. Ouais. Allez, je continue. C'est la pierre pâle au front des plus forts, sous la terre humide et les feuilles mortes. Tout feu éteint dans les régions de l'ignorance, sous les ongles de la rouille. Nous ne savons rien à la terre. L'homme n'a pas besoin de nous. Son ciel n'est plus le nôtre. Tout nous paraît immobile. L'œil et le cœur de nos semblables, la lumière et ses géants, la profondeur et ses nains, la mort sans corps capital, le scandale de la tempête, sauvé que notre poids s'élève comme la source à son premier éclair, que notre forme soit sereine. La nuit se baigne dans les puits, le risque de mourir s'allume. Non, s'allume, pas s'amuse, s'amuse, s'annule. Ouais, c'est nul, oui, c'est nul de mourir, oui. Comme deux des chiffres zéro. Ah oui. Alors là, il faut être fort hein, en mathématiques. Hein. Comme deux des chiffres zéro, ouais. Alors ça fait deux zéros normalement, hein, si j'ai bien calculé. C'est que moi, j'étais à l'école jusqu'à 14 ans seulement. Hein. Je n'ai pas fait, bac pro 25, plus 25. Hein. Une mousse de bluet a franchi jusqu'à la corde la grand voile de couleur. Et ce sera tout pour Paul Éloire. Bon, alors je reviens d'Ali. Hein. Attendez, je crois bien qu'il est là dans le poème. Là. Alors en fait, bon, attendez, parce que là, attendez, bon, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'une contrepétrie, la panthère noire, alors que c'est le printemps, 61 avant terre, le coup de Forez, le massacre des éléphants roses. Alors, ça faudrait qu'on le lise en ce moment, le massacre des éléphants roses. Je ne veux pas vous faire un dessin, quand même, vous avez compris. Hein bon. dernière version de Jésus-Christ, non, de J.C. Hein. Veillez au bord de l'autoroute. Oh. Encore un abandon de domicile. Oh là là. Le fantôme de mon débarras, les trois couches. Oh. Le repasseur de slip. Oh. Mettez votre peau de saucisson au bestiaire. Voilà. Un rétro satanique. Inventaire et tombeau de poète. Bah merde, il n'y a pas dedans, là. Les poètes ne sont pas des boniches, hein, par exemple. Vous voyez, l'engrais du libraire. Encore un pavé de maître. Ben non, alors il n'est pas là. Un petit morceau, s'il vous plaît, non. Les dessous, non. Bon, enfin, je vous le retrouve. Hein. Bon, c'est pas grave. En parlant de la mer, bon, faut pas oublier le père, quand même. Hein. Surtout, n'oubliez pas le père, parce que la mer, elle est importante. Moi, j'ai fait un livre de poésie que sur la mer. Et j'ai appelé ça « Poème pour les filles d'océan ». Et je vais vous sortir un de ces poèmes, les filles d'océan. Et alors, je n'ai pas voulu copier sur Rimbaud, mais bon, j'ai quand même appelé mon poème « Le bateau ivre ». Ouais, bon. Je ne suis pas le seul à avoir vu un bateau ivre, hein. Bon. Et ça fut écrit en 2002, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Vous vous rendez compte? Et à 4h50 du matin, hein. Et alors, j'ai écrit ça, figurez-vous, en Haïti. À Jérémy. Jérémy, c'est une ville qui est complètement à l'ouest de Port-au-Prince. Hein. Le bateau ivre. L'île dérivait en détachant son regard de ne pouvoir apercevoir un avenir au large. Parce que c'était, ce peuple est très pauvre, et il l'est de plus en plus. Et aujourd'hui, Haïti est gouverné par des bandes de brigands. Le gouvernement et l'armée, la police n'arrivent plus à arrêter tout ça. Bon, c'est pas très joli ce que je vous dis, c'est pas de la poésie, hein, bon. Alors Jérémy, la ville des poètes oubliés, prenait la barre de travers sans réussir à maintenir un cap, pas toujours haïtien. Parce que là-bas, il y a un endroit qui s'appelle le cap haïtien. Bon, alors, j'ai fait un petit jeu de mots, là. Bon, et ma amie, ça arrête de m'engueuler. Bon, j'ai le droit de faire des jeux de mots, non? Bon, d'abord, c'est ça, la poésie, c'est des jeux de mots, hein? Alors, il y en a qui disent jeu de main, jeu de vilain. Ouais, ça c'est vrai, mais jeu de mots, c'est beau, hein? Bon. Les créoles regardaient la vie leur échapper en rongeant une vengeance déjà fatiguée. Oh. Les canons n'empêcheront plus l'invasion de la misère dans ce port qui reprenait l'eau du bénitier. Parce que là-bas, ils sont très cathos. Hein. Il n'y a pas que cathos. Hein. Il y a au moins une bonne dizaine de religions différentes. Ils ont même des boutiques dans la ville pour prôner comment on appelle ça, ceux qui croient en quelque chose. Des croyants, oui, les croyants. Ouais. Et alors les canons, ils sont, oui, il y a toujours des canons sur le port, mais qui dataient de plusieurs centaines d'années. Hein. Bon, et j'aime bien vous commenter au fur et à mesure, parce que c'est quand même non seulement un poème, mais je vous fais visiter, je vous fais voyager en plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été en Haïti, hein, quand même, hein, ne serait-ce que ceux qui m'écoutent. Les 25 000 auditeurs, là, auditrices, il n'y en a qu'un qui a été, c'est moi. Peut-être. Non, il y a peut-être d'autres. Hein. Le bateau ivre dérivait en entraînant un peuple libre et entravé par la fatalité d'un dieu refuge qui tentait de remplir le ventre des enfants en envoyant seulement des prières de leur donner à manger. Alors moi, j'ai vu des gamins faire la manche, mais également, quand on allait au restaurant, parce que nous, bon, on était des humanitaires internationaux, mais on avait de quoi manger, quoi, on allait au restaurant, bon, hein. Il y avait des gamins à la porte du restaurant qui attendaient qu'on leur donne à manger. Alors, de temps en temps, on en faisait venir un à table et on lui commandait un repas. Et on avait un petit préféré qui était donc dans l'orphelinat, puisqu'on construisait un orphelinat, qui était tenu par des bonnes sœurs québécoises. Il était toujours avec nous. Il s'appelait, et Dieu merci. Moi, depuis, il s'est tué à 22 ans en mobylette. Bon, ça va passons. Et alors, il prenait sa cuisse de poulet. Il sortait, il allait donner un petit copain à lui. C'était tellement humain qu'on aurait pu en avoir les larmes aux yeux, tellement c'était beau, ce geste. Oui. C'était vraiment de toute beauté. Alors on l'a un peu chouchouté, ce gamin. Manque de peau, bon. La vie a fait autre chose avec lui. L'oiseau lâcha un cri de détresse que l'enfant rattrapa de justesse pour en faire un désespoir. J'avais pris ce bain de foule sans savoir, pour me laver de tout soupçon d'ingérence dans cette saleté de misère. L'enfant souriait à mon passage malgré l'odeur persistante de sainteté. Il réussit à prier. Le marché se confondait entre fruits et excréments. Les cochons noirs fouillaient de leur groin le sol à la recherche d'un trésor camouflé par un chien famélique qui respectait la hiérarchie. Alors là, c'est vrai, sur les... Je ne peux pas appeler ça des plages, des bords de mer. C'était immonde. Il y avait de la merde partout. Parce que là-bas, il ne devait pas y avoir des boueurs. Hein. Chacun se démerdait pour foutre sa merde où il pouvait. Hein. Et alors, j'avais les cochons et les chiens errants qui fouillaient dans la plage pour essayer de choper des excréments, un peu de nourriture, des pelures, des trucs comme ça. Voilà, hein. Alors, c'était un voyage très, très dur, très, très triste, mais... Bon, j'ai quand même écrit, parce que ça valait le coup d'écrire sur, sur la misère des autres, la démontrer, la faire voir surtout, au travers de la poésie, oui, voilà. J'en ai pas les larmes aux yeux, mais presque. Je sens qu'il y en a une qui va tomber. Non, reste dans l'œil. Non, pas maintenant, non. Bon, ça va, elle m'a écouté. Bon, ça va. Alors, tiens, on va peut-être passer un peu... Alors, moi, j'ai fait un choix marrant. Marrant, mais aussi, comment je pourrais dire, en remerciement à Thierry Bacoffin, qui avait quitté le club des hydropathes pendant plusieurs années, et qui, là, va revenir à la prochaine séance que nous aurons à la fin du mois. Et voilà, il est donc, naturellement, non seulement c'est un poète, mais aussi c'est un chanteur, et il s'accompagne à la guitare, et là, ça s'appelle « Bonhomme ».
Pomme, fier comme Artaban, tu te complais bonhomme à défier les vents. On trouvera bien d'eau dans tes récits de guerre, le ressac, l'écume et les coups de tonnerre. Bonhomme qui me chante tes comptines d'enfant. Ton sourire, c'est en somme ma force pour longtemps. Ton sourire, c'est en somme ma force maintenant. Ta blondeur insolente ferait baisser les yeux à tout un champ de blé par nature orgueilleux. Cartable sur le dos, des fous rires à l'appel, des chapelets de gros mots dans ta bouche rebelle. Bonhomme qui me chante des comptines d'enfants. Ton sourire, c'est en somme ma force pour longtemps. Ton sourire, c'est en somme ma force maintenant. Pomme d'api ascendant golden, trois boules qui roulent et me poussent, et dans mon gros vieux pull en laine, y'a comme l'empreinte de ta frimousse.
Maintenant, je pense qu'il fait 4 pommes. Parce qu'il a grandi depuis le bonhomme, hein ? Bah oui. Peut-être que même c'est un pommier. Oui, c'est un pommier. Alors, je cherchais toujours ce fameux poème, là. Alors, j'ai mon deuxième tome inspiré par Prévert. Alors, est-ce qu'il est dedans ? Oh, merde, alors. J'aurais dû y penser plus tôt, merde. Vous ne savez pas que vous connaissez Dali et Gala, bon, hein ? Bon, mais ça, vous allez voir. Bon, je vais bien vous le trouver. Hein. Allez. Il n'est pas dans le troisième tome. Le troisième tome n'est pas encore édité. Bon, allez, tant pis. Je ne cherche pas maintenant parce que c'est plus de la radio qu'on fait, là. C'est de l'assistance d'animateur. Alors, tiens, l'arbre en poésie. Voilà, ça y est, j'ai trouvé celui-là. Il y a un monsieur qui est certainement un Sud-Américain ou un Sud-Espagnol portugais... Lanza del Vasto, Lanza del Vasto, si, si. Alors, vous savez, j'ai retrouvé une photo que j'avais faite en descendant en Espagne pour partir au Maroc en petit fourgon. Hein, on amenait du matériel pour handicapés à Rabat. Hein. Et c'était l'année, en 2004, oui, où on circulait en Espagne, de temps en temps on traversait comme une ville, il y a toutes les fenêtres, c'est marqué « No a la guerra »,« No a la guerra ». Et figurez-vous que là, ils recommencent aussi, ces derniers jours, à le faire, bah, par rapport à la Palestine, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. C'est marrant parce que je pense qu'à l'époque, c'était pour l'Irak. Et je l'ai mise sur Facebook, cette photo, avec un des commentaires du Premier ministre espagnol, ça faisait un petit peu une logique entre les deux photos. Hein, voilà. Bon, je vous dis parce que c'est Lanza del Vasto qui me fait penser à ça. Bon. L'arbre. Oh, il s'est pas emmerdé, il l'appelait l'arbre. Remarquez, l'arbre, il ne va pas appeler ça un poisson ou une limande. Hein. Bon. L'arbre que l'hiver creuse et qu'il délabre, de terre à ciel, est un chemin battu. Avril, aux tendres mains, quand viendras-tu? Quand rallumer tout ce grand candélabre? Flamme debout qui ne brûle et ne bouge, ruisseau qui coule en remontant, le feu, sans doute, a quitté son masque rouge. L'eau, sa robe, couleur du temps, et s'embrassant dessous la terre dure, ils se sont fécondés en se battant, pour qu'un surgeon de la lumière obscure jaillisse ainsi dans le ciel de printemps. Corps nuageux, vertébré comme un mont, flanc qui perce un oiseau, couvre la brise, l'été respire à son vaste poumon, le grand soleil en mille nuits se brise, folle des lunes vertes, d'astres troubles, dans les bas-fonds et sa face des doubles. Le bleu du ciel est un sommet de lac, une source qui joue et son murmure en ces grottes de vie au sourd au sac. D'un rêve d'eau ranime la ramure, lui, couronné de paix et de verdure, lui, jubilant d'oiseaux, lui, blanc de fleurs, lui, nourri en discorde et fort des heures, des heurtes, en qui la lutte élémentaire dure, le tronc farouche au sommet de sa tour, ourdit ses nœuds, ses fourches, ses détours, et se poussant de rupture en rupture, maintient victorieux l'architecture, pour coucher son automne en la couleur du feu dont il ne fait, comme en la leur, l'homme qui saigne et le soleil qui meurt. Voilà, c'est beau, hein. Bravo, Lanza del Vasto. Ah. Il y a des mecs bien, quand même, sur Terre, hein. Et qui savent bien faire de la poésie. Allez, tiens. Mon copain. C'est dommage que je ne l'ai pas connu, moi. Victor Hugo. Voilà. Et alors, comme on est au printemps, il a fait exprès, pour aujourd'hui, un poème qui s'appelle Printemps. Vous vous rendez compte, le hasard? Il est bien, ce mec, hein. Bon, il est un peu court, son poème. Alors, c'est vrai qu'il ne l'a pas écrit aujourd'hui. Hein. Il a écrit un 18 juillet. Un 18 juillet, c'est plus le printemps, c'est l'été. Et en plus, en 1859. Alors, on est en 2026. Bon, il était, comment on appelle ça, précurseur. La preuve, je le dis aujourd'hui, alors qu'il a été écrit en 1859. Vous vous rendez compte? Printemps. C'est la jeunesse et le matin. Vois donc, ô ma belle farouche, partout des perles dans le teint, dans les roses et dans ta bouche. Alors j'espère que c'est des perles, hein, que c'est pas du teint ou des roses. Hein, bon. L'infini n'a rien d'effrayant. L'azur sourit à la chaumière et la terre est heureuse, ayant confiance dans la lumière. Quand le soir vient, le soir profond, les fleurs se ferment sous les branches. Les petites âmes s'en vont au fond de leur alcôve blanche. Elles s'endorment et la nuit, à beau tomber noir et glacé, tout le monde des fleurs qui luit et qui ne vit que de rosée. L'œillet, le jasmin, le genêt, le trèfle, un carnat d'avril d'or, qu'avril d'or, est tranquille car il connaît l'exactitude de l'aurore. C'est beau ça, oh, j'aurais voulu m'appeler Victor. Hugo, pas maintenant, non, Hugo plus tard, mais Victor déjà, Victor. Victor Mélier, ça ferait beau, hein. VM au lieu de MM. Ah, elle-même, c'est pas mal, hein. Hein, Madame X, qu'est-ce que t'en penses? Elle-même? C'est elle-même ou elle-même? Vous savez, les jeux de mots qu'on peut faire avec MM, hein? Eh oui. Bon, allez. Sur ce, Je vais vous lire un de mes poèmes quand même, parce que là, c'est vrai, bon, quand même, faut pas exagérer. Hein. Pas toujours les mêmes. Alors, ce fut écrit en 2018. Et c'est un poème sur Jean Boussu, qui malheureusement est mort beaucoup plus tôt, il est mort en 2012. Mais je me devais de faire un hommage. Et là, c'est le mystère de l'épingle à nourrice enfin dévoilé. Parce qu'il avait une épingle à nourrice qui faisait presque 5, 7, 8 cm de haut, en cuivre. Et c'était un peu comme une médaille, avec donc sa chaîne, qui lui avait été offerte par Aguigui. Hein, Mouna Aguigui, le fameux chantre poétique révolutionnaire du quartier Saint-Germain-des-Prés, vous voyez. Et il l'a connu là-bas parce que Jean Boussu, je travaillais à Paris, était facteur à Paris. Et facteur, justement, à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Et c'est comme ça qu'il l'a reconnu, parce qu'il s'est reconnu en lui, parce que c'était le même genre, les cheveux longs, la barbe, anarchiste, un petit peu anarchiste sur les bords, mais juste sous les bords, hein, pas à l'intérieur. Hein, non. Parce que sinon, il aurait foutu des bombes partout, si ça avait été vraiment un anarchiste. Hein. Et alors, il aura fallu plus d'un demi-siècle pour enfin connaître le secret de l'épingle à nourrice en laiton. Oui, enfin, c'est pas du cul, c'est du laiton. Mouna Aguigui, son grand copain, le grand copain de Jean Boussu, décorait les plus méritants de ses disciples de l'ordre de cette épingle dite à nourrice à Paris. Pourquoi ? Pour les autres qui souffrent, qui subissent la guerre, et pour qui ? Pour les autres, les pauvres, les morts pour rien, à la guerre, le Vietnam, l'Algérie, et d'autres conflits qui détruisent l'homme. Comment ? En militant dans des organismes de paix, d'écologique, anti-nucléaire, des droits de l'homme et de la femme, l'Amnesty International. L'implication de Jean est semblable à Mouna. Et ce n'est pas pour rien. En lisant la vie d'Aguigui, on constate cette similitude d'action contre lui. Donc, comme Jeannot. Hein. La tentative de voyage jusqu'en Inde ressemble au voyage de Jeannot qui chercha le nirvana en plusieurs étapes. Les haltes et pauses sont aussi mêmes entre les deux hommes. Mouna, comme Boussuge, avait un vieux cartable où l'on retrouve les mêmes autocollants qui prenaient la fin des guerres, du nucléaire militaire et la paix dans le monde. Jean était devenu le bon disciple de Mouna. Est-ce pour cela qu'il reçut l'épingle à nourrice ? Haute distinction des Mouna frères aguiguistes. Alors, tant pis pour toi, camarade, tu crèveras sobre comme un chameau, et moi rond comme une queue de pelle. Aguigui, pour rester gai et en bonne santé, essayez de chier avant le petit déjeuner, rôtez, prenez votre pied après le déjeuner, riez à toute heure et pétez haut et fort quand vous le souhaitez. Ça, c'est des textes de Mouna Aguigui. C'était un vrai... Moi, je l'ai vu quand je travaillais justement dans un studio graphique à Saint-Germain-des-Prés, quoi, boulevard Saint-Germain-des-Prés, exactement. Et puis j'étais parti voir une librairie, la librairie Gilbert, ça s'appelait, pas loin d'Odéon. Alors j'étais parti à pied, parce que c'était à 300-400 mètres. Et je tombe sur lui, Aguigui, avec son vélo, en train d'haranguer la foule devant l'Odéon. Et donc, et c'est pour ça, alors j'ai connu naturellement Jean Boussu bien après, quand je suis arrivé à Périgueux. Et on a eu des similitudes comme ça. Il était aussi à l'enterrement, vous savez, des 12 personnes qui avaient été massacrées par la police dans une descente de station de métro. Hein. On avait été à l'enterrement tous les deux, mais on ne se connaissait pas. Et le truc d'Aguigui, c'est pareil. C'est marrant quand même. Hein. Bon, ben, après, c'est en discutant qu'on s'est rendu compte de ça. Hein. Alors, il paraît qu'il va falloir que j'arrête, parce qu'il est bientôt l'heure, même plus que l'heure. Bon, il paraît que j'ai déjà piqué un quart d'heure sur la prochaine émission. Bon, tant pis pour lui, hein. Il n'aura qu'à raccourcir son émission. Hein. Allez, je vous aime, je vous embrasse.